Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre nouveau rendez-vous La Suite. Nouvelle formule cette saison, 23h15 minuit, c'est plus de France Inter. Une semaine de dossiers 100% France Inter pour retrouver celles et ceux qui ont marqué l'antenne, les grands événements, les sujets qui font toujours l'actualité. Cette semaine, Toni Morrison, l'écrivaine nous a quittés cet été. Elle avait 88 ans, on a voulu rentrer avec elle, retrouver sa voix au micro de France Inter. Toni Morrison, première écrivaine afro-américaine à recevoir le prix Nobel de littérature en 93. Je me souviens avoir lu qu'elle avait voulu titrer Beloved, son prix Pulitzer, War. Refus de son éditeur car War, c'est-à-dire guerre, ce n'était pas assez vendeur. Et pourtant, ça définit Toni Morrison, portrait d'une écrivaine en guerrière qui a lutté pour supprimer ce qu'elle appelait le regard blanc. Ce soir, on retrouve Toni Morrison d'abord au micro de Nicolas Demorand. Elle était son invitée d'Inter le 10 novembre 2006, au moment où elle investissait le Louvre avec un projet à sa démesure. The Foreigner's Home, étranger chez soi. Les démocrates étaient au pouvoir aux États-Unis, les afro-américains y étaient arrivés. Elle s'en félicitait au regard de ce qui ne se passe toujours pas en France. France Inter Plus, Toni Morrison.
France Inter, Nicolas Demorand.
Il est 8h20, l'invité de France Inter est ce matin écrivaine, romancière américaine, prix Nobel de littérature 1993. Bonjour Toni Morrison.
Hello.
Et merci d'être avec nous. La traduction simultanée de vos propos est assurée par Xavier Combe. Vous publiez chez Bourgois votre tout dernier roman qui s'intitule Un don. Un roman qui nous plonge dans l'Amérique du XVIIe siècle, époque essentielle que vous avez choisie pour quelle raison ?
It was important to discuss or write about or even to imagine America
de traiter de l'Amérique avant que l'Amérique ne devienne les États-Unis. À cette époque, tout était possible, tout était ouvert, tout était envisageable. Et c'est une histoire entièrement différente de celle qu'on nous a racontée.
Tout était vraiment ouvert ou tout était déjà là, Toni Morrison, à savoir l'inégalité entre les êtres?
Everything was possible. Nothing was stable.
Tout était possible.
All the countries were there looking for
resources. Rien n'était stable. Tous les pays étaient présents à la recherche de ressources. Il ne s'agissait pas simplement d'hommes ou de femmes de croyances religieuses. Il y avait des marchands, il y avait des criminels, des prostituées, des mendiants. Tout le monde est venu de partout à la recherche de ce que recherchent les immigrés aujourd'hui. Les immigrés fuient toujours quelque chose d'horrible et ils espèrent trouver quelque chose de nouveau, une richesse et un avenir.
Et qu'est-ce qu'ils trouvent sur place, alors, Toni Morrison ? Sinon la violence, l'inégalité entre les classes, peut-être pas encore entre les races, mais ça va venir vite.
They found pretty much what was the condition they were running from.
À cette époque, ils ont trouvé ce qu'ils ont fui. La faim, d'autres personnes, il y avait 20 millions d'indigènes sur place avant même que Christophe Colomb ne mette le pied sur le sol américain. Un certain nombre ont survécu, d'autres ont eu beaucoup de mal, beaucoup de peine, mais tout dépendait de la détermination de l'individu à réussir.
On est avant le racisme, pour le dire. Comme ça, Toni Morrison.
It was before the legalization and the establishment.
Avant la légalisation
and the education,
l'institutionnalisation, l'éducation. L'esclavage était très répandu. Et ce, dans de nombreux pays, ce n'était pas inhabituel, l'esclavage.
Mais
la légalisation de l'esclavage, la distinction qui était faite entre les esclaves et non esclaves, et cette fracture, qu'on retrouve également dans la langue, était incroyable. N'importe quel blanc avait le droit de tuer n'importe quel noir pour n'importe quelle raison. Voilà la légalisation. Et donc, c'était la fin de cette époque où tous ces gens travaillaient ensemble sur les plantations, les hommes, les noirs, les esclaves, les gens libres.
Je vais vous demander, parce que le roman nous y invite, évidemment, de faire un très grand bond dans l'histoire de cette Amérique pré-raciste que vous décrivez à l'Amérique post-raciale qu'a pu décrire Barack Obama pendant sa sa campagne présidentielle. On a là les, le début et la fin.
It's a attractive formula.
Oui, la formule est séduisante, mais elle n'est pas tout
There
à fait juste.
Very dangerous, very serious
en effet,
minorities
il existe
in America
aux États-Unis des minorités très dangereuses qui sont d'un racisme plus violent que
and
jamais.
It's more important for them now
et leur cause est particulièement importante à leurs yeux.
Black president.
En effet, le président est noir.
If you take away the racist mask
si on enlève
people,
le masque raciste que portent ces gens,
they would simply be who their little selves.
Eh bien, ils deviennent les petits êtres qu'ils sont. Par conséquent, ils ont un besoin vital de rester racistes et ils sont encore présents sur le sol américain.
Donc, du 17e au 21e siècle, le racisme n'a pas été encore extirpé. Et ce que vous montrez, c'est que ses racines sont extrêmement profondes, Toni Morrison.
The roots are long, deep.
Les racines du racisme sont profondes.
Nobody hangs on to a stupid idea like that.
Et le racisme a été particulièrement rentable. Personne ne peut s'accrocher à une idée aussi stupide si on ne peut pas gagner d'argent avec cet état de choses.
How powerful minority racists are.
Je viens de vous parler du pouvoir de certaines minorités racistes aux États-Unis.
Extremely different now.
Malgré cela, la situation a beaucoup changé par rapport à ce que j'ai connu dans mon adolescence ou dans mes années de jeune adulte. Aujourd'hui, le racisme, ça n'intéresse plus personne en dehors de ces minorités maintenant.
Even among black students as well as white students.
Et cela est vrai pour les étudiants noirs et les étudiants blancs. Ils ont une relation assez distante, même par rapport
Because
au mouvement des droits
them,
civiques. Parce qu'à leurs yeux, aux yeux de mes étudiants, il s'agit d'histoires très anciennes.
So
donc il y a aujourd'hui très grandes différences, des améliorations, je dirais.
On va revenir au roman Toni Morrison, mais l'Amérique post-raciale est donc encore devant nous. Hein. Elle est à conquérir, si on vous entend bien.
It does. Post-racial America is in our near future.
Post-racial, eh bien, c'est dans un avenir proche, je dirais.
Je me disais en lisant ce livre, Toni Morrison, que je ne sais pas comment vous écririez si nous vivions d'ores et déjà dans l'Amérique post-raciale.
The same way.
J'écrirais de la même façon.
I did a lot of research in order to find out. How it felt to be a young
J'ai recueilli beaucoup d'informations pour essayer de comprendre la condition des jeunes esclaves, des jeunes femmes esclaves, sans ce double poids du racisme.
Liberating.
Eh bien, il y avait une espèce de libération.
But your question is like, how would it feel
Mais votre question
to write
consiste à savoir
Irish novelist.
comment j'écrirais si j'étais une écrivaine irlandaise.
C'est exactement ça, effectivement. Vous écririez différemment ou pas?
I would not write differently, but my subjects
Non, j'écrirais de la même façon, mais je ne traiterais pas les mêmes sujets.
Vous l'avez dit, et c'est important, votre héros est une héroïne. Et on voit bien que la question du racisme se combine de manière extrêmement forte, radicale, avec celle de la violence faite aux femmes.
I've written books in which the main characters were men.
J'ai écrit des romans où le héros est un homme.
Imagining the interior of a man.
Je suis à l'aise lorsque j'imagine la pensée intime de l'homme. Mais ce qui m'intéresse, c'est les relations compliquées qu'entretiennent les femmes avec le reste du monde. Parce que les femmes sont particulièrement vulnérables. Au XVIIe siècle, elles ne bénéficiaient d'aucune protection. Il n'y avait aucune loi protégeant les femmes. Il n'y avait pas de droit de propriété, pas de droit de vote, rien. Et si on n'avait pas un lien vis-à-vis d'une famille ou vis-à-vis d'un homme, eh bien à ce moment-là, on était en proie à toute violence. Et les femmes, à cette époque, étaient face au plus grand danger que représentait leur présence sur un territoire nouveau.
On l'entend bien, Toni Morrison, par l'univers qui est le vôtre. Votre écriture romanesque a nécessairement un versant politique. Est-ce que ça ne vous pèse pas à un moment ?
No, not a weight at all. I don't find
non,
any
ne
contradiction
pas.
Between
je ne vois
aesthetics and politics.
Aucune contradiction entre l'esthétique
that
et la politique.
Idea of art for art's sake
cette
is a construct
idée de l'art pour l'art, c'est un artefact, quelque chose qui a été établi en réaction à l'art communiste, qui était un petit peu forcé,
art,
didactique. Mais l'art véritable, qu'il s'agisse de Sophocle, de Dostoïevski ou de Shakespeare, c'est un art qui décrit le monde autour de nous, le monde politique, celui des rois, celui des effondrements de régimes. Tout grand art est politique, mais il n'est pas que politique. Il faut qu'il y ait de la beauté aussi dans l'art.
I've got that old, faithful and true, everlasting love for you. Still got that old, faithful and true, loving in my heart for you. Although I know we are through, darling, I'm still in love with you. I know that I'll never be free, loving you the way that I do. I know that I'll never be free, loving you the way that I do. How can I ever be free when your love's still a part of me? Your love is so high, I can't climb over it, it's so high. I can't go around it, so strong, like the rocks of ages, nothing can tear it down. I'll have that old faithful and true love for you until I die. And nothing but faithful and true love for you until I die. Can't love nobody but you, no matter how hard I try. I can't climb over it, it's so wide. I can't go around, it's so strong. Like the rock of ages, nothing can tear it down. I'll have that old faithful and true love for you until I die. And nothing but faithful and true love for you until I die. Can't love nobody but you, no matter how hard I try. Can't love nobody but you, no matter how hard I try. Can't love nobody but you, no matter how hard I try.
Earl Kim, All Faithful and True Love. Vous écoutez le NRV, la suite, premier épisode France Inter plus une semaine consacrée à Toni Morrison. Nicolas Demorand l'avait reçu en novembre 2006. Et bien 10 ans plus tard, jour pour jour, on la retrouve chez elle près de New York, novembre 2016. Et si Trump est élu, entrerait-elle en guerre, en résistance? Toni Morrison, partie de Boomerang avec Augustin Trapenard.
Make America Great Again, ce slogan qui est scandé, placardé partout sur les murs, pancartes et autres casquettes bleues, blanches et rouges étoilées. Ce slogan de campagne de Donald Trump, Make America Great Again, saviez-vous que c'était déjà celui de ses concurrents aux primaires des Républicains et aussi celui de Ronald Reagan dans la course à la présidence en 1980. Rendre l'Amérique grande à nouveau. Pas besoin d'être historien ou sémioticien pour voir que cette phrase repose sur l'idée d'un passé idyllique, d'une grandeur qu'on a laissé filer, d'un paradis perdu. C'est une lecture de l'histoire pour le moins orientée, un grand récit national en fait, qui fait abstraction volontairement des failles, des brèches et des crimes de l'Amérique, comme si elle avait été blanche comme neige l'Amérique et qu'on pouvait rêver de lui redonner son innocence originelle. Quand on sait que Donald Trump exaltait à l'origine les hommes blancs en colère, les « angry white men », on peut légitimement s'interroger sur cette expression « make America great again ». car l'Amérique n'a jamais été blanche, et c'est d'ailleurs le génie de sa littérature que de n'avoir jamais cessé de le rappeler. C'est là le seul point commun, par exemple, entre une Toni Morrison et un James Ellroy, qui ouvrait l'un de ses plus beaux livres, vous vous souvenez peut-être, en écrivant qu'il ne peut pas y avoir de chute de l'Amérique, pour la bonne et simple raison que cette dernière n'a jamais été innocente, et qu'il est impossible de perdre ce qu'on n'a jamais possédé.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est de celle qui fait la grandeur des États-Unis, prix Nobel de littérature il y a 23 ans. Elle est l'écrivain de la mémoire du peuple noir américain, du chant de Salomon à Délivrance en passant par Beloved. Elle exhume de sa langue lyrique les fantômes de l'esclavage et de la ségrégation qui planent encore sur la société américaine et rend leur dignité à ces oubliés de l'histoire. À la veille de l'élection américaine, elle nous fait l'honneur de nous recevoir chez elle, à quelques heures de New York. Bonjour, Toni Morrison.
Hello.
Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites de cette phrase « Make America great again » ?
I think it actually means « Make America white again ».
Ce qu'il faut entendre dans cette phrase, ce n'est pas rendre sa grandeur, mais rendre sa blancheur à l'Amérique. C'est à l'évidence un slogan raciste qui mobilise et enflamme beaucoup d'Américains, surtout après 8 années pendant lesquelles le président américain était noir, qu'on peut considérer comme le dirigeant le plus puissant du monde. Ça n'a pas plu à certains.
Comment vous expliquez, Toni Morrison, qu'aujourd'hui, en 2016, dans l'imaginaire de certains, une grande Amérique, une Amérique puissante, soit forcément une Amérique blanche ?
They never had to say it in the last, you know, say 50 or 80 years, that they are white, meaning they don't belong here.
Mais au cours des dernières décennies, en fait, ils n'ont pas eu le dire, mais ils sont blancs, donc ils ne sont pas d'ici. Ce sont des immigrants. Tout le monde ici est un immigrant, à l'exception des Amérindiens et des Afro-Américains. Mais tous sont venus comme immigrants, et ils ont forgé une union dont ils pensaient que le liant, c'était la peau blanche. Que vous veniez de Pologne pour immigrer aux États-Unis, vous restiez polonais, c'était très bien. Mais ce qui faisait de vous un Américain, c'était pas d'être un immigré polonais, c'était d'être un blanc. Et cela n'est vrai nulle part ailleurs dans le monde. Mais ça, c'est un pays qui a fait de la couleur de peau un ciment pour tous. Vous avez beau être très pauvre, sans abri, n'importe, mais vous avez une stature et un certain statut dès lors que vous êtes blanc, parce qu'il y a quelqu'un toujours à mépriser.
Mais cette Amérique post-raciale dont on a beaucoup parlé, dont Barack Obama était devenu pour certains le symbole, c'était un mythe, c'était un rêve. Vous y avez cru, vous, Toni Morrison ?
Il m'a fallu un moment pour croire que ça pouvait vraiment advenir, et j'avais peur que ça n'arrive pas, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et donc, quand c'est arrivé, j'étais folle de joie. Je n'ai jamais ressenti des sentiments aussi forts lors d'une élection. Je vais vous dire à quel point j'étais émue. Je me suis rendue à la cérémonie d'investiture. C'était une journée glaciale, humide, horrible. Mais des millions de gens étaient venus. J'ai fini par trouver mon siège. Et puis, il y avait là le drapeau américain. J'ai toujours trouvé plutôt ringard et moche par rapport à d'autres drapeaux avec toutes ces rayures et tout ça. Et puis, l'orchestre des Marines s'est mis à jouer « America the Beautiful ». Et j'étais là assise à me dire, oh, comme ce chant est beau. J'étais si fière. Et je crois, le terme que j'aurais utilisé à l'époque, c'était américaine. Je me sentais américaine, comme jamais auparavant. Et c'était un sentiment d'appartenance qui me tenait chaud, qui était si agréable.
Et aujourd'hui, à la veille des élections américaines, vous vous sentez encore, toujours américaine ?
Je n'en suis pas sûre, j'ai un peu peur. C'est un sentiment général partagé par beaucoup d'Américains quand ils pensent aux répercussions possibles des élections.
Si Donald Trump est élu président des États-Unis, qu'est-ce que vous faites, Toni Morrison ?
I will not be hurt or stopped or made miserable by him.
Je refuse de le laisser me faire du mal, m'entraver ou me rendre malheureuse. Bien sûr, j'aurais envie de me lamenter et de fuir. Beaucoup de gens disent, oh ben moi je quitte le pays, je vais au Canada. Ils peuvent remporter les élections, mais ils ne peuvent pas vous contrôler si vous ne les laissez pas faire. Et si cela devait advenir, bon, sans doute je passerai la journée entière prostrée et puis je me relèverai.
Est-ce que vous vous sentirez toujours américaine ?
Non.
Qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, se sentir américain pour vous ?
That the drive, political drive, and cultural interests.
C'est que tous les élans politiques, l'intérêt culturel,
driven toward.
Et les gens soient davantage dans un mouvement qui tourne autour de la liberté, la bonté, la coopération. J'ai 85 ans et j'ai beaucoup de souvenirs, pas tant de ma vie personnelle, mais de mes voyages. Quand j'étais étudiante à Washington, il y avait un seul endroit dans toute la ville où une jeune fille noire pouvait aller aux toilettes. À l'arrière des bus, il y avait des pancartes en bois qui indiquaient « réservées aux noirs ». Et puis il y avait des doubles fontaines à eau. J'étais assez jeune pour trouver ça drôle, mais pourquoi cette dépense superfétatoire ? Pourquoi deux fontaines à eau ? Donc, je vivais dans cet univers et la sécurité, je la trouvais sur le campus, parmi les autres étudiants noirs. Mais quand j'étais étudiante, je faisais partie d'un groupe de théâtre et l'été, on faisait des tournées, on donnait des représentations. Je n'étais jamais allée dans le sud des États-Unis et là, je me trouvais à sillonner la Géorgie, l'Alabama, le Mississippi. Et là, j'ai rencontré des gens adorables. Ils nous donnaient de l'argent, ils nous nourrissaient partout dans le sud. Et donc, pour moi, l'image du sud a changé. Je ne voyais plus ces blancs qui lynchaient les noirs, mais tous ces noirs si accueillants qui nous ouvraient leurs portes, qui s'occupaient de nous. Donc, c'est à ça que je pense maintenant, plutôt qu'à des blancs vociférants.
C'est vrai que toute votre œuvre, Toni Morrison, depuis L'œil le plus bleu, votre premier roman, jusqu'à Délivrance, en passant par Beloved ou Home, témoigne de cette difficulté de se sentir américain dans une culture qui reste dominée par le regard de l'homme blanc. Est-ce que vous n'auriez pas écrit que là-dessus, en fait ?
Oui, c'était le thème de mon premier roman, L'œil le plus bleu. Si vous pensez vraiment que vous auriez une vie meilleure, que vous seriez plus heureux si vous aviez des yeux bleus, donc une peau blanche, et que ça n'arrive pas, ça peut vous détruire, ça vous rend fou. C'est beaucoup plus que douloureux ou décevant, c'est ravageur. Alors, ce que j'ai voulu faire, je crois avoir réussi, c'est essayer d'extraire le poison de cette idée vénéneuse que certains noirs se sont imposés. Mais vous savez, j'ai lu que se blanchir la peau en Afrique ou ailleurs, c'est très tendance de nos jours.
Please.
Je vous en prie, ne faites pas ça.
C'est une féministe noire américaine qui a séduit les jurés suédois du prix Nobel de littérature.
Thank you. My sincere thanks to the Swedish Academy. Oppressive language does more than represent violence. It is violence. Does more than represent the limits of knowledge. It limits knowledge.
Toni Morrison, invité exceptionnel de Boomerang, et on en est très fiers, d'autant que vous êtes le 4e prix Nobel de littérature à intervenir dans cette émission, après Patrick Modiano, Kenzaburo Oe, Svetlana Alexievitch. Après vous, on va pas se le cacher, Toni, on aimerait recevoir Bob Dylan. Vous croyez qu'il accepterait de venir?
He's finally said he would show up.
Ah, il a enfin annoncé qu'il irait à la cérémonie à Stockholm. C'est un homme si difficile. Mais j'étais amusée, contente de ce choix. J'aime ces textes. Ces textes sont très beaux. Mais j'étais surtout ravie parce que le comité Nobel décerne de nombreux prix, mais aucun pour la musique. Alors là, ce n'était pas un prix Nobel de la musique, mais c'est un petit pas dans cette direction. Mais avec tous ces musiciens en vie, bourrés de talent, pourquoi pas? N'importe quel économiste ou scientifique reçoit un Nobel, alors après tout.
Vous savez que moi, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je me dis, de Nobel à Nobel, vous pourriez peut-être lui passer un petit coup de fil, lui envoyer un petit SMS pour le convaincre de venir dans Boomerang.
Vous
savez ce qu'il a fait un jour?
Eh bien,
on nous a décerné à lui et moi ce qui s'appelle, je crois, la médaille présidentielle. C'est le président des États-Unis qui vous décore. Donc, il vous donne la médaille, il vous serre la main, puis vous dites quelques mots aimables. Et Bob Dylan avait choisi de passer en dernier lors de la cérémonie de remise. Le président Obama lui met la médaille autour du cou et Dylan se retourne, la main posée sur le bras du président, et lui dit « Merci, mec ». C'était génial.
Remarquez, il était temps que l'Amérique fasse son retour à l'Académie suédoise. Le dernier auteur à avoir été récompensé, c'était vous, Toni Morrison, il y a 23 ans. Le plus grand Nobel de littérature qui ait connu les États-Unis, pour vous, c'est qui ?
Pearl Buck was the one that got it before me.
Eh bien, c'est Pearl Buck qui m'a précédé. Uh-huh. Et puis, je sais pas, Faulkner. Ouais, ça, c'était un bon choix.
His speech was good. Yeah.
Même son discours était excellent.
Je m'attendais à ce que vous répondiez William Faulkner. Évidemment, vous lui avez consacré un mémoire à l'époque où vous étiez étudiante à l'université de Cornell. Pourquoi lui ? Pourquoi Faulkner ?
He's the best. He was the best writer in America.
C'était le meilleur. C'était le meilleur écrivain américain, avec l'imagination la plus féconde. Et puis son approche de la question raciale me fascinait. Il ne tombait pas dans les travers d'Hemingway qui pouvait écrire, par exemple, deux types marchaient dans la rue, l'un était cubain et l'autre noir. Quoi ? Ils étaient sûrement tous les deux cubains. Et Faulkner avait vécu à Cuba. Il avait cette sensibilité très profonde. Il était au-dessus du lot.
Quand est-ce que vous êtes devenue une lectrice, vous ? Quand est-ce que vous êtes tombée dans la littérature ?
J'ai toujours lu. Dès l'âge de 3 ans, on ne faisait que ça. Toute la famille s'intéressait à nos lectures. Ma mère était membre de plusieurs clubs du livre. Mais il faut bien comprendre quelle en était la raison. Ce n'était pas seulement le plaisir de la lecture. Mon grand-père, vous savez, se vantait d'avoir lu la Bible 5 fois intégralement. Et tout le monde disait, oh, c'est formidable. Et moi, je me demandais, mais et alors ? Et puis j'ai réfléchi. Il n'avait aucun livre dans la maison, sans doute que la Bible. C'était la seule lecture qui lui était accessible. Et on l'empêchait d'aller à l'école, on l'empêchait de s'instruire. À l'époque, en Alabama, la ségrégation. Donc la lecture, eh bien, c'était un acte politique dans ma famille. Ce n'était pas juste pour passer le temps. C'était un acte agressif, anti-blanc, parce que les Blancs nous interdisaient d'aller à l'école. C'est la génération de ceux qui s'instruisaient dans les champs. Et si un blanc était surpris en train d'apprendre à lire ou à écrire à un noir, eh bien, il était passible d'une amende ou pouvait être mis en prison.
Quelle était la place des noirs, justement, dans la littérature telle que vous l'avez découverte, Toni Morrison ? Comment est-ce qu'ils étaient représentés ? Vous en parlez dans un très bel essai qui s'appelle « Playing in the Dark ».
Ils étaient des objets de risée. déjouer des idiots. Et mon livre, L'œil le plus bleu, ça a été ma réaction à Topsy. Personne ne prenait au sérieux une petite fille noire, ni dans la littérature, pas plus que dans la vraie vie. Mais tout ça, c'était les oubliés. Et cette petite fille, je voulais lui rendre sa vie dans toute sa richesse, sa profondeur, même si ça se termine mal. Mais de manière générale, on ne trouvait que des personnages comme des sambos, enfin des foutaises, qui ne parlent pas vraiment de la question. Et même les auteurs noirs qui n'écrivaient pas de la fiction, mais des essais, comme Frederick Douglass, bon, ils évoquaient la chose, mais après... Eh bien, ils hésitaient, ils renâclaient à rentrer dans les détails les plus cruels, les plus horribles. Pourquoi ? Parce qu'ils écrivaient pour des lecteurs blancs.
Ça veut dire que vous, Toni Morrison, vous écrivez d'abord pour les Noirs américains, pour leur rendre justice ?
Yes, first. Assuming that they're humans...
Oui, en premier lieu. Et bien sûr, n'importe quel humain peut lire le livre. Mais ça pose toujours problème au niveau des critiques. Parce que les critiques, ils subodorent toujours qu'il y a là quelque chose dans lequel ils ne veulent pas rentrer.
Qu'est-ce que vous avez l'impression de réparer avec l'écriture, avec vos livres ?
I think I'm getting close to...
Je pense m'approcher d'une situation où il soit possible pour les lecteurs blancs, les lecteurs noirs, d'aborder une œuvre littéraire sans toutes ces barrières, l'esprit ouvert, voir par eux-mêmes qui sont ces gens, des bons, des méchants, intelligents, idiots, mais sans préjugés, fondés sur le racisme.
Et ça marche, alors ?
Si.
Alors on va réparer les vivants tous les deux avec une berceuse, si vous le voulez bien, une berceuse signée Gershwin, une berceuse baignée du soleil d'été dans le vieux sud des États-Unis, le Summertime de Porgy and Bess, interprété ici à l'aube des années 60 par Mahalia Jackson. Vous êtes sur France Inter, vous écoutez Boomerang avec Toni Morrison.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy and your ma is good looking. So hey, little baby, don't you cry. One of these mornings you gonna rise up singing. You gonna hide your way home, take to the sky. Nothing will harm you. With Dad and Mammy, they'll be standing by.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Bon, alors on va pas se le cacher, dans cette catégorie, il y a Gandhi, Churchill, Martin Luther King, et il y a toujours le Dalai Lama, ma mère, et peut-être le pape François, quand même. Elle est, comment dire, indescriptible, hein, quelque part entre la grande prêtresse, la gorgone et l'arbre de la connaissance, avec ses grands yeux de sage, sa posture majestueuse, ses inimitables dreadlocks grises ou argentées. C'est pas Bob Marley, c'est Toni Morrison, la romancière américaine, invitée exceptionnelle de Boomerang en cette veille d'élection présidentielle, l'occasion de parler de cette œuvre foisonnante qui, à chaque livre, explore et construit un pan de la mémoire oubliée du peuple noir américain. Votre premier roman, vous l'avez publié à 39 ans, en 1970, il s'appelait The Bluest Eye, et il racontait l'histoire de cette petite fille noire, abusée par son père, conspuée par toute sa communauté, qui souffre de ne pas avoir les yeux bleus. Ce livre, à l'époque, il n'a pas été bien reçu, pas bien du tout. Certaines écoles et bibliothèques ont même essayé de le faire interdire. Pourquoi est-ce qu'il a choqué, ce livre, Toni Morrison ?
Incest.
C'est l'inceste. Les femmes noires en particulier n'ont pas aimé le livre pour cette raison. J'avais une amie, on avait 8 ans, on marchait un jour dans la rue, on se disputait sur l'existence de Dieu. Moi j'affirmais qu'il existait, elle me disait non. Alors je lui dis, comment le sais-tu ? Elle me répond, j'en ai la preuve. Quelle preuve ? Et elle me répond, eh bien ça fait 2 ans que je prie, que je supplie Dieu pour avoir des yeux bleus et il ne me les a pas donnés. Alors je me rappelle très bien m'être tournée vers elle en me disant que d'abord, si Dieu l'avait exaucée, elle serait horrible. Elle avait la peau très foncée, mais elle avait un visage d'une grande beauté, les pommettes hautes, une très belle bouche, des grands yeux en amande. Elle était absolument ravissante.
Un peu comme l'héroïne justement de The Bluest Eye, qui est noire, et son rêve c'est de ressembler donc à Shirley Temple, dont le visage a envahi toute l'Amérique. À quoi vous rêviez de ressembler, vous, quand vous étiez petite ?
My mother, she was so beautiful.
À ma mère, elle
And
était si belle.
She had this perfect,
et elle avait une voix parfaite,
voice. She could have
magnifique.
Done Mahalia Jackson.
Elle aurait fait de l'ombre à Mahalia Jackson.
C'était votre modèle, votre mère ?
Oh yeah, she's very important, very powerful.
Oui, elle a beaucoup compté, you know, pour moi. C'était une femme puissante et une artiste. Même si elle n'en vivait pas, mais avec sa voix, elle excellait. Et les gens venaient de tout l'État pour l'écouter chanter.
But, you know, she's a little colored woman.
Mais bon, c'était une petite femme de couleur de l'Ohio. Mais ça lui faisait plaisir qu'on aime l'entendre chanter. Et des gens m'ont demandé si j'avais eu envie de suivre cette voie. Et je me suis dit, non, il vaut mieux pas. Moi, j'écris. Je ne chante pas. Je n'ai pas de voix.
Ah si, vous avez une voix.
Oh, well, good, all right.
Bon, d'accord.
C'est intéressant de parler d'apparence avec vous quand même, Toni Morrison, parce que ça traverse vraiment votre œuvre. Ce premier livre, The Bluest Eye, il parle d'un sujet que vous n'allez jamais cesser d'explorer, qui est au cœur de votre dernier roman aussi, Délivrance. L'histoire d'une petite fille que sa mère n'aime pas parce que sa peau est trop foncée et qui prend sa revanche en transformant sa couleur en atout. Ce sujet, c'est quand même celui de la beauté qui traverse votre œuvre. C'est quoi la beauté pour vous ? Ça tient à quoi ?
Well, it's distorted so much.
La beauté est tellement dévoyée, mais la beauté physique, ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est ce qui se passe à l'intérieur et qui apparaît dans la manière dont vous voyez quelqu'un. Mais il s'agit de faire le bien, de ne pas avoir peur, c'est ça qui fait la beauté. Et toutes ces qualités, certes un peu clichées, mais que j'estime. Bien sûr, il est plus facile d'évoluer dans le monde si vous ressemblez à la moyenne des gens, et c'est plus difficile si ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, la beauté physique n'a aucun intérêt pour moi.
Mais cette phrase, par exemple, qu'on a tant entendue, cette phrase galvaudée par bien des aspects, qui est « Black is beautiful », vous vous méfiez de cette phrase ?
I hated that phrase when they started saying it.
Ah, j'ai toujours détesté cette phrase. Oui. J'étais éditrice à l'époque et il y avait tous ces livres qui sortaient, Black is Beautiful, et moi je me disais, oui, mais pourquoi a-t-on besoin de dire ça ? C'était un peu comme, contrairement à ce que vous pouvez penser de nous, on est beau. Bon, moi je trouvais que c'était une erreur, que c'était absolument pas nécessaire.
male.
Et puis, il y avait quelque chose dans cette phrase qui était très masculin, même s'il y avait le mot beau. Bon, c'était les hommes, les chefs de file, les panthères noires, n'avaient que ce mot à la bouche, « black is beautiful ».
C'est votre mission de faire apparaître le beau là où on ne le voit pas, d'opérer une sorte de révolution du regard.
To make beauty and put it on display in odd and different places.
Oui, exposer la beauté. Dans les arts, mais aussi partout. Élargir cette notion de beauté. Parce que la beauté, ça concerne aussi la manière dont on parle, dont on bouge, ce qu'on ressent les uns vis-à-vis des autres. Et puis, on peut être frappé, mais frappé par quelque chose de très beau.
Qu'est-ce que vous trouvez beau, vous, aujourd'hui, autour de vous?
Ça a changé au fil du temps. Pendant longtemps, c'était mes enfants, la moindre chose qu'ils avaient fait, qu'ils avaient vu. Et puis maintenant, ils ont grandi, ils sont devenus vieux, ils sont partis. Alors j'ai choisi la nature et j'ai choisi d'être là, avec toutes ces couleurs changeantes. Ça m'apaise, ça me satisfait immensément. Quand je me lève le matin, la rivière est toujours là.
Et vous, Toni Morrison, vous vous trouvez belle?
Yeah.
Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation, de nous avoir reçus ici, chez vous, à quelques lieux de New York. Merci aussi à Eve Dare qui vous a traduite aujourd'hui. Je rappelle, Toni, que votre dernier roman, Délivrance, est publié aux éditions Christian Bourgois dans une traduction de Christine Laferrière, qui est disponible aussi en poche aux éditions 10-18. Ce soir, Toni Morrison, c'est le résultat. Qu'est-ce qu'on fait? On croise les doigts.
Fingers crossed. Yes. Beating hearts.
On croise les doigts, oui. Le cœur battant.
Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us, wanna see us apart. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us, wanna see us apart. And I just want to feel your love. And I don't want to have to share our love. I try, but I get overwhelmed. Overwhelmed when you're cold. prisoners, they're hiding, they're waiting and holding.